Chapitre 24. Un temps pour le faire. À une dizaine de lieues à l'est des Boudars, des rakens jaillissaient hors des nuages irisés de lumière par le lever de soleil pour venir se poser sur une longue et étroite bande de terrain réservée aux éclaireurs volants, comme l'attestaient les oriflammes multicolores accrochés au sommet de très hauts mâts. Dans cette zone, l'herbe jaunie avait été tant piétinée qu'il n'en restait plus que quelques touffes. Toute la grâce des reptiles volants disparaissait dès qu'ils posaient les serres sur le sol, pour se mettre à courir lourdement en battant de leurs larges ailes pour ne pas perdre l'équilibre. Pareillement, quand ils se dandinaient grotesquement pour décoller, leurs cavaliers couchés sur leur dos comme pour les tirer en arrière, nul n'aurait pu s'extasier sur le spectacle. Et leur envol en catastrophe, sans doute parce que la piste était trop courte, ne méritait pas d'applaudissements. En revanche, une fois dans les airs, filant vers les nuages et le soleil, les rakens recouvraient toute leur dignité et leur grandeur. Les éclaireurs qui se posaient ne mettaient même pas pied à terre, tandis qu'un rampant nourrissait le raken en lui offrant un panier empli de fruits ratatinés qu'il gobait à toute vitesse. Un des éclaireurs tendait le rapport de mission à un autre rampant, un peu plus vieux que le précédent, pendant que l'autre, penché du côté opposé de sa monture, écoutait les ordres d'un éclaireur bien trop blanchi sous le harnais pour prendre place très souvent sur une selle. La pause terminée avant d'avoir vraiment commencé, le raken trottinait jusqu'au bout de la piste, où trois ou quatre autres attendaient de pouvoir se lancer vers les nues au terme d'une course franchement pathétique. Slalomant entre les cavaliers et les fantassins, des estafettes fonçaient vers la grande tente de commandement, au toit surmonté d'un étendard rouge, où des officiers attendaient avec impatience les nouveaux rapports. Dans le camp, des lanciers du Tarabone, à l'air hautain, croisaient des piquets d'Amadicia au flegme légendaire. Tous ces hommes qui évoluaient par petits groupes parfaitement formés portaient des plastrons ornés de rayures à la couleur de leur régiment. Les cavaliers altariens, eux, allaient et venaient un peu partout, semant le désordre avec leurs montures indisciplinées. Bien entendu, ils se rengorgeaient d'arborer sur leurs plastrons des rayures rouges horizontales radicalement différentes de celles des autres soldats. S'ils avaient su que c'était un signe marquant les combattants jugés peu fiables et susceptibles de se démonter au premier problème, ils auraient sûrement moins bombé le torse. Parmi les Séanchaniens, plusieurs régiments dotés d'un nom et bardés d'honneur étaient représentés. Venant de tous les coins de l'Empire, on trouvait là des hommes aux yeux clairs d'Alcam, des gaillards au teint couleur de miel de Nkon, et des guerriers à la peau noire comme le charbon de Koweal et de Dalenjar. Des Morat Torm traversaient le camp, leur étrange monture reptilienne couverte d'écailles, faisant hennir et renacler les chevaux glacés de peur. Ils croisaient parfois un Morat Grolm, qui fendait majestueusement la foule sur son énorme bête de guerre au long bec. Mais pour l'heure, il manquait dans cette cohue un élément pourtant indissociable d'une armée séanchanienne, car les Souldam et les Daman étaient toujours sous leur tente. Le capitaine général Kennar Mirage pensait le plus grand bien de ses femmes. De son siège, sous la tente de commandement, il voyait très clairement la grande table carte d'état-major autour de laquelle des sous-lieutenants s'affairaient, vérifiant les rapports et posant aux endroits requis des symboles incarnant les forces en présence. Sur chaque marqueur, un petit drapeau, en fait un carré de parchemin, indiquait la taille et la nature des troupes en question. Trouver des cartes dignes de ce nom était impossible, mais celles qui figuraient sur le grand plateau de la table étaient largement suffisantes. Et ce qu'on y voyait avait de quoi inquiéter. Par exemple, ces disques noirs qui représentaient les avant-postes conquis ou balayés par l'ennemi. Il y en avait sur toute la moitié orientale des monts Venir. L'extrémité orientale, elle, était couverte de triangles rouges. Des troupes en mouvement. Et toutes se dirigeaient vers Eboudar. Enfin, au milieu des disques noirs, le capitaine général en avait compté 17 autres, d'un blanc immaculé. Les forces ennemies. Un jeune officier en veste d'uniforme brun et noir, la tenue des Morat Torm, posa sur la carte un 18e disque blanc. Certains pouvaient être des doublons, aperçus à quelques lieues de distance par des éclaireurs différents. Mais la plupart étaient bien trop espacés pour que ce soit possible, d'autant plus que les heures des rapports ne collaient pas avec cette thèse. Le long des parois de la tente, des scribes en tenue marron, leur grade au sein de ce corps étant uniquement indiqué par un insigne épinglé à leur col, attendaient, plume à la main, que Mirage leur dicte des ordres qu'ils copieraient en plusieurs exemplaires, afin qu'ils soient distribués à toutes les unités. Mais le capitaine général avait déjà donné tous les ordres possibles et imaginables. Dans ces montagnes, il y avait environ 90 000 soldats ennemis, soit deux fois plus que tous les hommes qu'ils pouvaient réunir ici, même en comptant les indigènes. 90 000, c'était beaucoup trop pour qu'on puisse y croire. n'était un détail. Les éclaireurs ne mentaient jamais, car si ça arrivait, ils se faisaient trancher la gorge par leurs collègues. Beaucoup trop d'ennemis, qui sortaient de terre comme des vers dans le Sanctuary. Au moins, ils avaient une quarantaine de lieues de montagne à traverser avant de pouvoir menacer Éboudard. Presque 50, pour ceux qui se trouvaient le plus à l'est, et après ça, presque autant sur un terrain très vallonné. De plus, le chef adverse voudrait sûrement regrouper ses forces, afin qu'elle risque moins la défaite, et ça lui prendrait un certain temps. Le seul élément qui jouait en faveur de Mirage, probablement. Le rabat de la tente s'écarta pour laisser passer la haute dame Sourotte. Sa crête de cheveux noirs se prolongeant par une crinière qui lui cascadait sur les reins, elle portait une robe blanche et une cape richement brodée, sur lesquelles on ne distinguait pas la moindre tache de boue. Mirage aurait juré qu'elle était encore à Éboudard, mais elle avait dû en venir sur un Thoraken. Pour l'heure, elle était accompagnée par une modeste suite, à son échelle. Deux gardes de la mort, un gland noir pendant à la poignée de leur épée, tenaient le rabat ouvert. Et il y en avait d'autres dehors, eux aussi en tenue vert et noir. Ces hommes étaient en quelque sorte l'incarnation de l'impératrice. Puissent-elles vivre à jamais? Même les membres du sang leur accordaient une certaine considération. Sourotte passa entre les deux gardes comme s'ils étaient de vulgaires larbins, à l'instar de la fort belle et voluptueuse Dacovalé, aux cheveux blonds tressés, qui la suivait à deux pas de distance. Vision spectaculaire dans sa robe blanche transparente, et portait son bureau pliable de campagne. La voix du sang de Sourotte, Alwyn, était là aussi. En robe verte, le côté gauche du crâne rasé, et le reste de ses cheveux châtains nattés sans fantaisie, cette femme avait toujours l'air de venir de se faire voler son petit déjeuner. Alors qu'il se levait de son siège, Mirage vit avec stupéfaction que la seconde Dacovalé, derrière Sourotte, une petite femme aux cheveux courts, était une damane. Dans une robe transparente. Qu'une de ces femmes soit vêtue comme une esclave n'était déjà pas banale, mais en plus, c'était Alwyn qui portait le bracelet de la dame. Sans trahir sa surprise, Mirage s'agenouilla devant la haute dame.
« Que la lumière soit sur toi, Sourotte. Gloire et honneur, haute dame. »
Tous les officiers présents sous la tente se prosternèrent. Mirage en était dispensé, car il appartenait au sang, comme Sourotte. Même s'il était d'un rang inférieur, qui ne l'autorisait pas à se raser la moitié du crâne. Dans le même ordre d'idées, seul l'ongle de ses petits doigts était verni. Quand on était très bas dans la hiérarchie, comme le capitaine général, on ne manifestait pas sa surprise lorsqu'on voyait une haute dame laisser sa voix, pourtant élevée au rang de Sojin, se comporter comme une seule dame. Décidément, il s'agissait de bien étranges temps, dans un bien étrange pays. Un temps et un pays où le dragon réincarné arpentait le monde, tandis que les marates d'Aman, libres comme l'air, pouvaient tuer ou réduire en esclavage qui elles voulaient. Daignant à peine regarder Mirage, Sourotte baissa les yeux sur la table et se raidit imperceptiblement. De fait, il y avait de quoi. Sous son commandement, les Heilene avaient accompli de véritables exploits, récupérant une plus grande partie que prévu du continent qu'on leur avait volé. Pourtant, ils avaient simplement mission de reconnaître le terrain, et après le désastre de Falm, certains mauvais esprits avaient estimé qu'ils n'y parviendraient pas. Sourotte pianota nerveusement sur la table, ses deux ongles démesurément longs cliquetant sur le bois. Si elle continuait à accumuler les succès, elle aurait bientôt le droit de se raser la totalité du crâne et de vernir un troisième ongle sur chacune de ses mains. Pour récompenser une telle réussite, une adoption par la famille impériale était même envisageable. En revanche, en cas de faux pas, elle risquait de se retrouver avec tous les ongles coupés courts et vêtue d'une robe transparente afin de servir humblement un membre du sang. Si on ne la vendait pas à un fermier, afin qu'elle aide à labourer ses champs ou qu'elle sue sang et eau dans une grange. Au pire, Mirage, lui, devrait simplement s'ouvrir les veines. En silence, il continua d'observer Sourotte. Ayant été un éclaireur volant avant d'être admis au sein du sang, il ne pouvait s'empêcher de remarquer tout ce qui se passait autour de lui. Pour un éclaireur volant, ce qu'il voyait ou ne voyait pas, c'était la différence entre la vie et la mort, la sienne et celle des autres. Les officiers, face contre terre, osaient à peine respirer. En principe, Sourotte aurait dû converser en privé avec le capitaine général et les laisser continuer leur travail. Dans l'entrée de la tente, les deux gardes venaient de refuser le passage à une estafette. Quelle nouvelle pouvait être assez importante pour que cette femme ait tenté de forcer un tel barrage? La Dacovalé qui portait le bureau pliable retint l'intention de Mirage. Sur son joli visage de poupée, de la colère passa très brièvement. Un tel sentiment chez une esclave? Mais ce n'était pas tout. Mirage s'intéressa à la damane. qui gardait la tête baissée, mais regardait néanmoins autour d'elle avec une dévorante curiosité. La Dac ovalée aux yeux marrons et la Damane au regard bleu étaient aussi différentes l'une de l'autre qu'il semblait possible. Pourtant, elles avaient un point commun. Quelque chose dans leurs traits, vraiment bizarre. D'autant plus que Mirage aurait été bien en peine de leur donner un âge, à l'une comme à l'autre. Si furtif que se soit montré le capitaine général, Alwyn remarqua son petit jeu. Tirant sur la chaîne de la dame, elle força la Damane à s'agenouiller sur le tapis qui couvrait le sol. Puis elle claqua des doigts, désigna ce même tapis à la Dac ovalée, qui ne bougea pas d'un pouce.
« À terre, Liandrine !»
siffla-t-elle. Avec un regard mauvais pour Alwyn, un regard mauvais, la Dac ovalée se laissa tomber à genoux, l'air franchement mécontente. De plus en plus étrange tout ça. Et pas vraiment important. Impassible, mais bouillant d'impatience à l'intérieur, Mirage continua à attendre. Une activité qu'il détestait. Son admission au sein du sang, il la devait au fait d'avoir chevauché 20 lieues en pleine nuit, avec 3 flèches dans le corps, afin de prévenir qu'une armée de rebelles marchait sur Séandar. Depuis, il en avait encore mal au dos. Sourotte se détourna enfin de la table, sans autoriser Mirage à se lever, ni lui donner l'accolade, comme il était d'usage entre membres du sang. Un manque de considération qui ne l'étonna pas, tant il était inférieur à cette femme.
« Tu es prêt à te mettre en mouvement ?»
demanda-t-elle sans préambule. Au moins, elle ne chargeait pas sa voix de lui parler à sa place. Devant ses officiers, la honte l'aurait contraint à garder les yeux baissés pendant des mois, sinon des années.
« Je le serai, Sourotte, »
répondit Mirage, en soutenant le regard de la haute dame. Après tout, il était lui aussi du sang.
« Nos ennemis ne pourront pas se regrouper en moins de 10 jours. Et il leur en faudra au moins autant pour sortir des montagnes. Bien avant ça, je...
« Ils seront peut-être ici demain !»
s'écria Sourotte.
« Ou aujourd'hui ! S'ils viennent, Mirage, ils se déplaceront en utilisant une très ancienne façon de voyager. Et il semble très possible qu'ils viennent. »
Mirage entendit des hommes s'agiter dans leur inconfortable position. Sourotte, qui perdait son sang-froid et parlait de ridicules légendes ?«
Tu en es sûr ?»
ne put s'empêcher de demander le capitaine général. S'il pensait avoir vu Sourotte perdre son sang-froid, il s'était trompé. Serrant frénétiquement le devant de sa robe à motifs floraux, elle parut sur le point d'exploser.
« Tu oses douter de ma parole ?»
rugit-elle.
« Crois-tu que mes sources d'information ne sont pas fiables ?»
À l'entendre, Sourotte était aussi furieuse contre ses sources que contre Mirage.
« S'ils viennent, il y aura 50 d'Achaman, quel nom grandiloquent ! Et pas plus de 5 ou 6 000 soldats ! Quoi qu'en disent les éclaireurs volants, ils ne sont pas plus nombreux que ça, et ce depuis le début !»
Mirage acquiesça. 5 000 hommes se déplaçant avec l'aide du pouvoir de l'unique. Voilà qui expliquerait bien des choses. Mais de quelle source Sourotte tenait-elle des chiffres si précis? L'officier était bien trop malin pour poser la question. Sourotte avait sûrement à son service des oreilles et des chercheurs, qui devaient la surveiller aussi, probablement. 50 Achamans. La seule idée d'un homme capable de canaliser révulsait Mirage. Selon les rumeurs, le dragon réincarné, ce maudit Randaltor, avait battu le rappel de ses hommes sur tout le continent. Mais la récolte avait été bien meilleure qu'on aurait pu le croire. Le dragon réincarné était capable de canaliser, disait-on. C'était peut-être vrai, mais lui, au moins, il était le dragon. Au Seanchan, les prophéties du dragon étaient connues avant même que l'Uther Paendrag ait commencé la consolidation. Connues, certes, mais sous une forme corrompue, très différente de la version parfaitement pure apportée par ce même Uther Paendrag. Sur ce continent, Mirage avait lu plusieurs volumes du cycle de Karaeton, et ils étaient eux aussi corrompus. Aucun ne mentionnait qu'il servait le trône de cristal. Mais les prophéties continuaient à fasciner les hommes, captivant leur cœur et leur esprit. Beaucoup de Seanchaniens espéraient que le retour serait pour bientôt, afin que ce continent soit revenu à ses légitimes propriétaires avant l'ultime bataille. Ainsi, le dragon réincarné remporterait la victoire au nom de l'impératrice, puisse-t-elle vivre à jamais. L'impératrice voudrait sûrement qu'on lui envoie Altor, afin de voir par elle-même quel genre d'homme luttait pour elle. Une fois que cet homme se serait agenouillé devant elle, il ne poserait plus aucun problème, car très peu de gens, après s'être prosternés devant le trône de cristal, parvenaient à s'affranchir de la crainte qui les envahissait. Le désir impérieux d'obéir leur desséchant la gorge. Cela dit, il semblait évident que faire embarquer de force Altor sur un bateau serait bien plus aisé si, pour se débarrasser des Achamans, car ils devraient être éliminés, ça ne faisait aucun doute, on attendait qu'il soit déjà en chemin sur l'océan d'Arit, voguant vers Séandar.
Un raisonnement qui ramena Mirage à la question qu'il essayait d'éluder. S'aperçut-il non sans déplaisir. S'il n'était pas homme à renâcler devant les obstacles, et encore moins à s'enfoncer la tête dans le sable pour les ignorer, ce problème ne ressemblait à rien qu'il ait déjà connu. Au cours de sa carrière, il avait participé à une dizaine de batailles, durant lesquelles les deux camps disposaient de Daman. Du coup, il savait comment ça se passait. Tout n'était pas qu'une affaire de frappe dévastatrice avec le pouvoir. Les Suldam expérimentés avaient une façon mystérieuse de voir ce que faisait une Daman ou une Marat Daman. En contrepartie, la Daman en question pouvait communiquer avec ses semblables et organiser une défense. Les Suldam pourraient-elles voir ce que faisait un homme ? Plus grave encore.
« Me confieras-tu les Suldam et les Daman ?»
demanda Mirage à Surot.
« Si elles sont toujours malades, le combat risque d'être court et sanglant. Pour nous. »
Les hommes prosternés s'agitèrent de nouveau. Dans le camp, une rumeur sur deux concernait la maladie qui contraignait les Suldam et les Daman à rester sous leur tente. Réaction peu convenable pour une Sojin, Alwyn eut un regard furieux. Aussitôt, la Daman se recroquevilla encore plus sur elle-même et se mit à trembler. Bizarrement, la Dakovalée aux cheveux blonds tressaillit elle aussi. Souriante, Surot approcha de la Dakovalée. Pourquoi souriait-elle à une banale servante visiblement mal dégrossie ? Quand elle se mit à lui caresser les tresses, une moue boudeuse apparut sur la bouche en forme de cœur de la Dakovalée. S'agissait-il d'une noble dame de ce continent présentement déchu ? Même s'ils étaient adressés à Mirage, les premiers mots de Surot semblèrent confirmer cette supposition.
« Les petits échecs ne coûtent pas grand-chose. En revanche, les grands se paient au prix fort. Tu auras les Daman que tu demandes, Mirage. Et tu apprendras à ces Achaman qu'ils auraient mieux fait de rester dans le Nord. Oui, tu balayeras de la surface du monde ces Achaman et ces soldats. Jusqu'au dernier. Voilà tes ordres. »«
Il en sera fait selon ta volonté, Surot. Tous détruits jusqu'au dernier. »
Le capitaine général ne pouvait rien dire d'autre. Au point où en étaient les choses. Il aurait quand même préféré que Surot lui réponde au sujet de l'état de santé actuel des Suldam et des Daman. Au sommet d'une colline rocheuse dénudée, Rand fit pivoter Taïda Ishar afin de voir les soldats de sa petite armée émerger d'une multitude de portails. Connectés à la source authentique, ils s'y accrochaient si fort qu'elle semblait trembler sous son emprise. Quand le pouvoir circulait en lui, les pointes de la couronne d'épée qui lui piquaient les tempes semblait à la fois plus acérée que jamais et incroyablement distante. Pareillement, le froid de ce milieu de matinée paraissait en même temps cruellement mordant et tout à fait insignifiant. Sur le flanc du jeune homme, les blessures inguérissables le torturaient, tout en le laissant de marbre. Un paradoxe de plus. Loustérine semblait comme hébétée à force de perplexité ou de peur. Après être passé si près de la mort la veille, il n'avait peut-être plus si envie que ça de quitter le monde. De toute façon, il n'en avait pas envie en permanence. Chez lui, la seule constante, c'était le désir de tuer. Et à l'occasion, cette envie brûlante s'étendait à sa propre personne.
« Bientôt, nous aurons assez de massacres pour satisfaire tout le monde », pensa Rand. « Ces 10 derniers jours, il y a eu assez de charniers pour écœurer un vautour. »
« Seulement 10 jours ?» Cela dit, Rand, lui, n'était pas écœuré, parce qu'il ne pouvait pas se le permettre. Loustérine ne fit pas de commentaire. Oui, c'était un temps pour les cœurs de fer, et les estomacs aussi. Rand se pencha pour toucher le long paquet glissé sous la sangle de son étrier. Non, ce n'était pas encore le moment, et ça ne le serait peut-être jamais. Le doute et un autre sentiment vinrent dériver à la lisière du vide. Au fond, il fallait espérer que ce moment ne viendrait pas. Le doute était légitime, non ? En revanche, l'autre sentiment n'était pas de la peur. Absolument pas. Une bonne moitié des collines environnantes était couverte de petits oliviers noueux. Sous les rayons d'un soleil palichon, des lanciers inspectaient déjà les rangées d'arbres pour s'assurer qu'il n'y avait aucun danger. Dans ces oliveraies, on n'apercevait pas l'ombre d'un ouvrier agricole. Et il n'y avait ni ferme ni structure d'aucune sorte en vue. Quelques lieues à l'ouest, les collines étaient plus densément boisées et donc plus sombres. Au pied de Rand, les légionnaires émergèrent d'une série de portails en colonnes parfaitement formées. Des volontaires ilianiens, désormais intégrés à la Légion, les suivirent dans le plus grand désordre. Dès qu'ils se furent plus ou moins alignés, ils s'écartèrent pour céder la place à des défenseurs de la pierre et des compagnons. Bien entendu, tous ces hommes pataugeaient dans la boue, tout comme leurs montures. Miraculeusement, très peu de nuages, d'une blancheur immaculée, dérivaient dans le ciel. Et rien n'y volait qui fût plus imposant qu'une hirondelle. comme Adley, Hopewell, Mor et Narishma, Dashiva et Flynn étaient avec les hommes, occupés à maintenir les portails, si nombreux que certains se trouvaient hors de vue de Rand, derrière des collines. L'urgence était que toute l'armée arrive le plus vite possible. Tous les hommes en veste noire qui n'étaient pas partis en patrouille, à l'exception de quelques soldats chargés de surveiller le ciel, étaient affectés au tissage des portails, y compris Gedwin et Rothschild, même si ça leur déplaisait fortement, comme l'attestait leur expression. Une tâche si subalterne devait leur paraître humiliante, sans aucun doute. L'air très content de lui-même et de son petit cheval bai, Bachéré vint rejoindre Rand au sommet de la colline. Malgré la fraîcheur de l'air, sa cape ouverte flottait dans son dos. Non sans désinvolture, il salua Aïlil et Anaïella, qui le foudroyèrent du regard. Sous son épaisse moustache, le maréchal eut un sourire qui n'avait pas grand-chose d'amical. Comme Rand, il avait des doutes au sujet des deux femmes, qui en étaient parfaitement conscientes, en ce qui concernait Bachéré en tout cas. Détournant la tête, Anaïella recommença à caresser la crinière de son hongre. Bien droite sur sa selle, Aïlil serrait ses rênes à rien trop fort. Depuis les événements de la veille sur la crête, les deux femmes suivaient Rand comme leur ombre. Le soir, elles avaient même voulu que leur tente soit à portée d'oreille de la sienne. Derrière Rand, sur l'autre versant de colline, Denarad se retourna pour balayer du regard les soldats des deux dames massés derrière lui. Puis il recommença à surveiller le jeune homme. De toute évidence, il veillait aussi sur Aïlil, voire sur Anaïella, mais le dragon réincarné restait sa priorité. Ces dames craignaient-elles encore d'être accusées s'il se faisait tuer? Ou voulaient-elles être averties si ça arrivait, afin de ne rien rater du spectacle? Rand n'aurait su le dire, mais il avait au moins une certitude. Si elles voulaient sa mort, il ne ferait rien pour accéder à leurs désirs.
« Qui connaît le cœur d'une femme ?»
railla Loustérine. Il semblait particulièrement sain d'esprit aujourd'hui, pour lui.
« Là où un homme te tuerait, la majorité des femmes hausserait simplement les épaules. Et là où un homme hausserait les épaules, bien des femmes te tueraient. »
Rand ignora le spectre. Le dernier portable visible de sa position venait de se dissiper. Les Achamans en train de monter en selle se trouvaient trop loin pour qu'il voie s'ils étaient encore connectés au Saïdine. Mais tant qu'il l'était pour sa part, ça n'avait aucune importance. Maladroit comme à l'accoutumée, Dashiva tenta de sauter en selle et faillit tomber deux fois avant de réussir son coup. Pendant ce temps, la majorité des hommes en veste noire étaient déjà partis vers le nord ou le sud. Les nobles se rassemblèrent derrière Bachéré, sur le versant de la colline où se tenait Rand. Les plus huppés et les plus puissants se débrouillant pour être au premier rang, non sans quelques bousculades, lorsque la préséance était difficile à établir clairement. L'air absent, une attitude délibérée, Tiéra et Marcoline se placèrent chacun sur un flanc du groupe de nobles. S'il était possible qu'on leur demande leur avis, ils savaient pertinemment que la décision appartiendrait à d'autres. Alors que Weyramon ouvrait la bouche, sans doute pour se lancer dans une de ses tirades pompeuses sur le dragon réincarné, l'honneur, la gloire et les charges héroïques, Sunamon et Toréan arrêtèrent leur monture l'une à côté de l'autre et commencèrent à converser entre eux. Habitués aux dérives verbales du théarien, ils étaient tous les deux assez puissants pour ne pas se sentir obligés de le ménager. Sunamon arborant une expression inhabituellement dure, Toréan, malgré sa veste aux manches rayées de satin rouge, semblait prêt à se lancer dans une querelle frontalière. Berthom et plusieurs autres Kerieniens ne se tinrent pas tranquilles non plus, chacun riant grassement des plaisanteries des autres. Les sermons de Weyramon avaient lassé tout le monde, et ça se voyait. Encore que la mauvaise humeur de Semaradrid semblait avoir une autre cause. Chaque fois qu'il regardait Aïlil et Anaïella, il se rembrunissait un peu plus, sans doute parce qu'il détestait qu'elle soit si près de Rand. Surtout sa compatriote, bien entendu.
« À 4 lieues de nous, environ, » dit Rand. « 50 000 hommes s'apprêtent à attaquer. »
Tout le monde le savait, bien sûr, mais ces quelques mots attirèrent l'attention sur lui et imposèrent le silence aux nobles. Même à Weyramon, qui adorait pourtant s'entendre pérorer. Tirant sur leurs barbes pointues soigneusement huilées, Geyam et Marakon, ces idiots, souriaient par anticipation. Alors que Semaradrid affichait la moue écœurée d'un type qui vient d'avaler tout un saladier de prunes vertes, Grégorine et les trois autres membres du Conseil des Neufs qui l'accompagnaient auraient pu passer pour l'incarnation de la détermination et de la gravité. Car ils n'avaient rien d'idiot, eux.
« Nos éclaireurs n'ont pas vu de Souldam et de Daman, »
continua Rand.
« Mais même sans ces femmes, et avec des Achamans dans nos rangs, c'est une force suffisante pour nous causer de lourdes pertes, si quelqu'un parmi nous oublie le plan. » Mais je suis sûr que ça n'arrivera pas.
Cette fois, pas de charge sans qu'il en ait donné l'ordre. Sur ce point, Rand s'était montré très clair. Et pas question de foncer tête baissée parce qu'on pensait avoir aperçu quelque chose. Wairamon eut un sourire mielleux que Sunamon lui-même n'aurait pas pu égaler. À sa manière, le plan était d'une grande simplicité. L'armée allait avancer vers l'ouest en 5 colonnes, chacune comptant des achamans, et elle essaierait de fondre sur les Séanchaniens de tous les côtés. Selon Bachiré, les meilleurs plans étaient les plus simples.
« Quand on ne se contente pas de toute une portée de petits cochons, avait-il dit, et qu'on décide de s'enfoncer dans la forêt pour débusquer la vieille truie, mieux vaut éviter les fioritures, si on ne veut pas se faire éventrer. »
Après le premier contact, les plans de bataille volent en éclats,
dit Loustérine dans la tête de Rand. Il semblait encore dans de saines dispositions d'esprit, mais ça ne dura pas.
Quelque chose ne va pas. Ça ne devrait pas être ainsi, mais pourtant, il y a je ne sais quoi qui cloche, qui est faux, qui s'agite, qui tressaute, qui démange.
Il éclata de son rire de dément.
« Non, ce n'est pas possible. »
Des gémissements à présent.
« Je dois être fou. »
Fléau de s'aligner se volatilisa avant que Rand puisse le réduire au silence. Que la lumière le brûle. Ce plan était parfait, sinon Bachéré l'aurait descendu en flammes. Loustérine était fou, ça ne faisait pas de doute. Mais tant que Rand Altor restait sain d'esprit, quelle mauvaise plaisanterie pour le monde si le dragon réincarné perdait la tête avant le début de l'ultime bataille.
« En formation !»
cria Rand en levant son sceptre. Une très mauvaise plaisanterie, vraiment, qui lui donnait envie de se rouler par terre de rire. Les nobles se séparèrent, chacun allant rejoindre sa colonne en marmonnant. Comme on pouvait s'y attendre, les affectations décidées par Rand n'avaient plu à quasiment personne. Après les premiers combats dans les montagnes, il y avait eu une certaine fraternisation, mais les antagonismes, depuis, étaient revenus au galop. Wairamon eut quelque peine à ravaler sa tirade, qui resterait à jamais inédite. Mais il se reprit, gratifia Rand d'un salut de la tête, qui braqua sa barbe sur Rand, comme s'il s'était agi d'une lance, puis il partit en direction du nord, suivi par Kirill Drapaneos, Bertom, Dorécine et plusieurs nobliaux du Kérien, tous sinistres à l'idée qu'un Théarien les commande. Presque comme si c'était lui le chef, Gedwin chevauchait aux côtés de Wairamon, et il fit mine de ne pas remarquer les regards noirs que celui-ci lui lançait. Les autres groupes étaient aussi hétéroclites. Grégorine allait lui aussi vers le nord, Sunamon le suivant en faisant mine de ne pas s'apercevoir de son existence, comme s'il avait choisi sa direction au hasard. Derrière lui, Daltanès conduisait d'autres nobliaux kérieniens. Geordwin Semaris, un autre membre du Conseil des Neufs, accompagnerait Bachéré au sud avec Amondrid et Geyam. Ces trois-là avaient accepté le maréchal avec ce qu'on aurait pu prendre pour de l'enthousiasme. En fait, ils se réjouissaient qu'il ne soit pas, au choix selon les cas, Théarien, Kérienien ou Ilianien. Rothschild tenta de jouer avec Bachéré au même jeu que Gedwin avec Wairamon. Mais le maréchal l'ignorait superbement. Non loin du groupe de Bachéré, Toréan et Marakon chevauchaient côte à côte, unis par leur déplaisir d'être sous les ordres de ces maradrides. Dans le même ordre d'idées, Ershin Netari ne cessait pas de regarder en direction de Geordwin, et il se dressait même dans ses étriers pour jeter un coup d'œil par-dessus son épaule et tenter d'apercevoir Grégorine et Kirill, pourtant déjà dissimulé par des collines. Le dos bien droit, ses maradrides semblaient tout aussi sereins que Bachéré. Pour tous ses choix, Rand s'était appuyé sur le même principe. En Bachéré, il avait une confiance absolue, et il pensait pouvoir se fier à Grégorine. Quant aux autres, eh bien, avec tant d'étrangers et de vieux ennemis autour d'eux, et si peu d'amis, ils ne risquaient pas de s'aventurer à retourner leur veste. En les regardant s'éloigner, Rand rit sous cap. Ses hommes se battraient pour lui. Et ils feraient de leur mieux, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Pas plus que lui, d'ailleurs.
« De la folie !»
siffla Loustérine. Rand le repoussa sans ménagement dans les limbes. Bien entendu, il n'était pas seul. Sur les collines environnantes, parmi les oliviers, Tiéra et Marcoline attendaient, avec la majorité des défenseurs théariens et des compagnons ilianiens. Les autres s'étaient déployés, pour interdire toute embuscade. Sous les ordres de Massonde, une compagnie de légionnaires patientait dans une ravine, au pied de la colline de Rand. Son arrière-garde étant composée par les hommes qui s'étaient rendus quelques jours plus tôt. Impressionné par le calme des légionnaires, leurs frères d'armes à présent, il tentait de les imiter, mais sans grand succès. Rand regarda Aelil et Anaïella. La théarienne fit un sourire forcé qui s'effaça très vite. La kérienienne ne bougea pas un cil. Le jeune homme n'était pas en position de négliger les deux dames, ni de Narad, car leur soldat constituerait le plus gros de sa colonne, et sa force de frappe la plus puissante, de très loin. Flynn et les hommes que Rand avait sélectionnés après les puits de Doumaï gravissaient le versant de la colline pour le rejoindre. Le vieil homme chauve chevauchait en tête, comme toujours. Pourtant, à part Adlai et Narishma, tous les autres portaient à leur col le dragon et l'épée, Dashiva ayant été le premier à les mériter. Mais les plus jeunes hommes témoignaient un grand respect à Flynn, à cause de son passé de porte-étendard dans la garde de la reine d'Andorre, et de toute façon, Dashiva se fichait des détails de ce genre. Apparemment, le comportement de ses compagnons l'amusait, quand il s'abstenait de parler tout seul, faut-il préciser. Sachant cela, Rand fut plus que surpris lorsqu'il vit Dashiva talonner maladroitement sa monture pour prendre la tête du groupe. Sur son visage ordinaire, si souvent inexpressif lorsqu'il était plongé dans ses pensées, s'affichait une franche inquiétude. Du coup, Rand sursauta quand la chamane, après l'avoir rejoint, se connecta au Saïdine et tissa autour d'eux une protection contre les oreilles indiscrètes. Loustérine ne gaspilla pas son souffle, pour autant qu'on puisse parler ainsi d'un esprit désincarné, à lancer des appels au meurtre. En ricanant comme un dément, il tenta d'arracher la source à Rand pour contrôler lui-même le pouvoir. Puis il se tut brusquement et se volatilisa.
« Il y a quelque chose d'étrange avec le Saïdine ici. Quelque chose qui ne va pas. »
Contrairement à ses habitudes, Dashiva parlait d'un ton clair, net et précis. Celui d'un professeur qui fait face à un élève particulièrement obtus. À un moment, il brandit même un index en direction de Rand.
« Je ne sais pas ce que c'est. Rien ne peut altérer le Saïdine. Et si quelque chose en était capable, nous l'aurions senti dans les montagnes. À dire vrai, il y avait comme un trouble hier, mais si minime. Ici, je le capte plus clairement. Le Saïdine est excité, impatient. Je sais, ce n'est pas un être vivant, mais ici, il palpite. Mais ça le rend plus difficile à contrôler. »